Nous sommes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio une brochette d'invités spéciaux à l'occasion du lancement d'une soirée qui s'appelle la soirée FinTech. C'est le Canada-Bulgaria Business Network en collaboration avec le Belgian Canadian Business Chamber et le British Canadian Chamber of Trade and Commerce qui vont vous inviter à cette soirée FinTech. Alors, on va en parler un petit peu plus. Ça aura lieu le 24 octobre prochain. Messieurs et madame au téléphone, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je vais vous demander de vous présenter. On a André van der Heyen, si je n'écorche pas trop ce nom, Mathé Netkov, Roger Vendôme et au bout du fil, Agnès Ruffa qui nous rejoint de France.
Bonjour, donc.
Bonjour à tous et
bonjour à tous.
Bienvenue sur les ondes de Choc FM.
Merci.
Alors, qui commence pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Quelle est cette soirée FinTech? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord FinTech?
Très bien, donc le FinTech, les autres me corrigeront, mais c'est en fait c'est un raccourci, un porte-manteau, on va dire, de Financial Technology.
D'accord.
Et nous sommes aujourd'hui en pleine révolution technologique et digital de tout ce qui concerne et qui touche au commerce, aux individus, que ce soit de comment est-ce qu'on communique entre nous. Ça a commencé dans les années 90 avec le email,
oui.
et peu à peu ça vient à tous les sujets. Maintenant nous sommes aux services financiers qui sont.
Chose très intéressante, c'est que c'est un peu révolutionnaire ici en Amérique du Nord, ouais. On le sait. Cependant, en Europe, dans plusieurs pays, France, Bulgarie notamment, ça a commencé il y a déjà quelques temps. Par exemple, pouvoir payer le parking avec son téléphone mobile se fait depuis au moins 10 ans dans certains pays en Europe.
Oh, vraiment?
Alors, il faut faire attention quand on dit que c'est révolutionnaire.
D'accord, j'ignorais ça. Alors, pour moi, c'était révolutionnaire, effectivement. L'emploi du téléphone pour le paiement, on a fait une chronique il y a peu de temps là-dessus et je pensais que c'était quelque chose d'absolument nouveau. Vous nous étonnez.
Oui, non,
la technologie, en fait, existe depuis déjà quelques temps. Elle s'est beaucoup développée en Asie, en Afrique.
D'accord.
L'innovation vient beaucoup de l'Europe. Et après, c'est venu plus récemment en Amérique du Nord, je dirais.
D'accord. Curieusement, l'Amérique du Nord est un petit peu à la traîne, finalement, alors, dans cette révolution technologique.
Non, pas vraiment. On peut pas vraiment dire que l'Amérique du Nord soit vraiment à la traîne. Comme souvent, en fait, on peut comparer un petit peu avec un mot qui revient assez souvent, qui est l'ubérisation des problèmes, qui vient de du phénomène Uber, qui a résolu un problème dont les personnes n'avaient pas conscience, en fait.
Donc là, vous parlez, pour les auditeurs, de ce fameux groupe Uber de voituriers qui remplace en quelque sorte, voilà, les services de taxi.
Exactement.
Qui pose pas mal d'interrogations.
Mais qui en fait repose sur une logique qui est d'occuper un vide.
Oui.
Et dans le monde des fintechs, le vide est représenté par aujourd'hui l'incapacité par les services financiers des banques de répondre à certains besoins. De répondre aux besoins, ou en tout cas d'y répondre dans des conditions acceptables par le public, qui sont en général des conditions de vitesse et d'efficacité. Alors, si je prends l'exemple de l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, donc qui est Lendified, qui est une des fintech leaders sur le marché aujourd'hui à Toronto pour le prêt aux petites entreprises, c'est très caractéristique parce que jusqu'à présent, les banques, donc les services financiers, les institutions financières, bancaires, ont prouvé d'énormes difficultés à financer la petite entreprise.
Alors, Roger Vendôme, pour les auditeurs, Lendified s'occupe donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le microcrédit?
Alors, ce n'est pas du microcrédit. Le microcrédit est vraiment très, très spécifique. En général, limité à des zones géographiques comme l'Inde ou l'Afrique.
Oui.
Et là, le microcrédit, on parle de sommes qui avoisinent, par exemple, 10 dollars, 20 dollars sur des temps très, très courts.
Entendu.
Ici, c'est... Alors, par exemple, Lendified va prêter ce qu'on appelle en anglais du working capital. Donc, ce sont des sommes qui vont de 5 000 $ jusqu'à 50 000. Ça peut aller plus négocié. Un de nos clients aujourd'hui a un prêt de 150 000 $. Donc, ça reste des petites sommes sur des temps courts, sur en général 1 an, 2 ans maximum. Mais c'est quelque chose que les banques, les institutions financières aujourd'hui ont beaucoup de mal à faire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à le faire? C'est compréhensible, c'est tout à fait logique. C'est qu'aujourd'hui, les institutions financières, pour accepter un crédit et donc pour estimer le risque représenté par ce crédit, sont obligées de suivre le même process qu'ils font pour n'importe quel crédit, c'est-à-dire que ça doit passer en commission. Oui. Donc, il y a énormément de papiers à remplir, ça passe en commission. Et ne serait-ce que le salaire des 5 personnes d'une commission de crédit pendant une heure à décider de la décision qu'ils vont prendre est déjà plus cher que les intérêts qu'ils vont avoir sur un petit prêt de cette nature.
Alors, si je comprends bien, ces entreprises fintech, en quelque sorte, prennent une place qui est, comme vous le disiez, qui n'est pas véritablement prise et proposent ou offrent aux consommateurs une plus grande rapidité, mais également peut-être des coûts plus intéressants sur le même à service équivalent.
Absolument, des coûts qui sont sans commune mesure. Le coût normal pour une institution financière, pour une banque, de prendre une décision de crédit est aujourd'hui estimé à peu près 3 000 $. C'est le salaire des personnes qui vont siéger sur le comité, le temps de remplir les papiers, etc., etc. Oui. Aujourd'hui, une entreprise comme Lendified ou les autres entreprises, les autres fintech, les autres prêteurs que l'on trouve sur le marché, arrive à descendre ce coût aux alentours de 100 $. Et sur un temps extrêmement court. Le marché aujourd'hui, de façon un peu implicite, oblige ou impose un certain nombre de règles, enfin pas de règles, mais disons de normes au marché de la fintech. On s'en rend compte lorsqu'on fait des études et qu'on regarde, par exemple, à partir de quel moment les clients quittent le site internet.
Oui.
On s'aperçoit que remplir un formulaire doit se faire au maximum entre 15 et 20 minutes.
Après, pour quelle raison
Après, c'est ennuyeux, c'est trop long.
D'accord.
On n'a pas forcément les papiers, on n'a pas les éléments nécessaires. Il faut savoir que 65% des personnes qui font une application de crédit sur le net le font à partir de leur téléphone mobile.
Oui,
donc, ils n'ont pas forcément tous les éléments à portée de main. Si on leur pose trop de questions et que c'est trop long, ils abandonnent.
Donc, on s'adapte également à la technologie, en réalité.
Absolument. Et donc, cette norme est aux alentours de 15 à 20 minutes.
D'accord.
Ensuite, la décision est attendue dans les 2 minutes qui viennent.
Mm-hmm.
Donc, il faut automatiser la décision. Et cette décision doit être prise en 2 minutes. Dans les 2 minutes qui viennent, il faut que le retour sur le site Internet soit une réponse à la question « Oui ou non, on vous accorde un crédit ?» À quel taux et pour combien?
Tout ça joue donc un petit peu sur la question de la patience du consommateur, finalement, qui devient peut-être un petit peu plus courte avec la nouvelle technologie.
Oh, absolument. Il y a un engrenage qui est en train de s'opérer. Et effectivement, le consommateur demande toujours plus et plus vite. Et il faut répondre à ses exigences toujours très vite. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une décision de crédit à prendre. Il faut donc en gérer le risque.
Roger Vendôme, merci pour ces éclairages. Donc, on en sait un petit peu plus maintenant sur ce qu'est le fintech et ces entreprises qui en font partie. Alors, cette soirée fintech du 24 octobre prochain, elle est organisée en partenariat avec la Chambre belge et la Bulgarie, on l'a dit. André van der Heijen, vous voudriez prendre la parole là-dessus, expliquer en quoi les relations commerciales entre la Belgique et la Bulgarie sont peut-être quelque chose au centre de cette soirée.
Alors, et il ne s'agit pas nécessairement que de la Belgique et de la Bulgarie et de l'Angleterre, non
et de
plus,
l'Angleterre.
Mais surtout, il s'agit de relations pan-européennes avec le Canada. Finalement, nos trois chambres, nous sommes tous aussi représentés à l'UCOSIT, à l'UCAN, donc à la Chambre européenne. Et la communauté européenne à travers Toronto travaille très bien ensemble, finalement, parce que des questions qui porteront sur comment faire en affaire entre le Canada et la Belgique, par exemple.
Oui.
Une grosse partie de ces questions sont les mêmes pour si on veut faire affaire avec la Bulgarie, avec l'Angleterre, avec la France, l'Allemagne ou quoi. Donc, il y a une certaine tradition, on va dire, de coopération et collaboration entre les diverses chambres européennes.
D'accord. Alors,
que nous nous trouvons dans des sujets qui ne sont pas nécessairement propres à notre pays et qui ont une conséquence, on va dire, pan-européenne.
Oui.
Mathé Netkov de Lacan, maintenant, votre point de vue en tant que...
Oui, non, c'est très bien dit, André, merci. Et aussi, nos amis anglais vont être là aussi, ce soir-là. C'est surtout André qui travaille avec Choc FM et qui a eu la gentillesse d'organiser cette réunion aujourd'hui. Et en tout cas, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il faut aussi penser à la chose suivante, c'est que les chambres européennes sont des chambres de commerce.
Oui.
Et leurs membres, et il faut aussi dire que Roger a plusieurs chapeaux. Il est le président d'une chambre de commerce française qui s'appelle la TFBN. Donc, on est tous avec la même philosophie. Nous voulons surtout servir nos membres. Et nos membres, qui sont-ils? Eh bien, ils sont soit des nationaux, dans le cas d'André et Roger, France, Belgique, dans le cas de Mathé, Bulgarie. Cependant, nous avons beaucoup, énormément de membres d'autres pays dans chacune de nos chambres. Comme je suis membre de la chambre française, je participe aux soirées belges. Alors, cette soirée a été préparée par la chambre bulgare, mais c'est en aval d'une soirée que Roger avait préparée il y a quelques mois pour la chambre française. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, nous allons discuter du fintech, parce que c'est un sujet très intéressant qui grandit, qui prend de plus en plus d'importance. Cependant, à cet événement, nous aurons le plaisir d'avoir nos membres qui vont pouvoir se rencontrer, faire le networking ensemble et peut-être faire des ententes commerciaux ou devenir des grands amis à fur et à mesure du temps.
D'accord, donc aussi pour résumer, je comprends bien, il s'agit d'une grande soirée de réseautage qui va permettre effectivement de rencontrer, puisqu'elle est organisée en collaboration donc avec différentes chambres de commerce françaises, belges, bulgares et même britanniques, d'après ce que je comprends. Donc une soirée de réseautage assez exceptionnelle à Toronto pour peut-être développer des opportunités de commerce, d'échange entre tous ces pays.
Oui.
Exactement. Et puis Agnès aussi, lorsqu'elle passait plus de temps à Toronto, à s'occuper de France Accueil. Elle était la présidente. Donc, vous avez un groupe assez intéressant ici.
Alors, au bout du fil, nous avons également Agnès Ruffa. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors vous allez intervenir dans cette soirée FinTech, n'est-ce pas? Mais sur un autre aspect, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, en fait, donc moi j'organise des conférences internationales sur les moyens de paiement. Je suis franco-canadienne, donc j'en organise une à Toronto et une à Paris chaque année.
Oui.
Donc je fais intervenir des spécialistes de tous les continents sur les moyens de paiement, ce qui me permet de voir tout ce qui se pratique en termes d'innovation, de réglementation, de financement de cette innovation. Et c'est comme ça que j'ai pu voir qu'en fait les technologies financières se sont d'abord surtout développées dans les pays où en fait justement il y a moins de banques, pour aller un petit peu plus loin que ce qu'expliquait Roger, mais dans le même sens. C'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est l'Afrique et l'Asie? C'est parce que là-bas c'est beaucoup une culture du cash,
oui,
en fait, de tout ce qui est argent liquide. Donc en fait finalement ils sont passés directement de l'argent liquide au paiement par portable.
Alors c'est un petit peu le même processus que ce qui s'est passé, je crois, pour les téléphones. Ils n'avaient pas eu de ligne filaire et ils sont passés directement au téléphone portable, au téléphone mobile.
Exactement. Il faut savoir qu'en Afrique seulement 20% de la population a des comptes en banque.
Oui.
C'est une proportion qui risque d'augmenter dans le temps parce que les gens se développent, et une classe moyenne, enfin se développe financièrement parlant, oui, grâce à ces moyens, à cette technologie, à ces moyens de paiement, à tous ces processus qui sont en plein développement dans ces pays d'Afrique, ce qui permet aux habitants d'accéder à une classe moyenne, d'avoir plus de moyens et donc d'accéder aux banques. En Asie, c'est différent dans la mesure où ils sont passés effectivement du cash aux moyens de paiement électronique, mais ils ont déjà plus d'argent à la base. La Chine est quand même un pays très riche, l'Inde aussi, même si tout le monde n'est pas riche dans ces pays-là. Et du coup, il y a beaucoup de ce que j'appellerais des gadgets, mais les points de vente ont des bornes avec beaucoup d'options. Le paiement par portable est quasiment systématique dans certains pays comme au Japon, en Chine, ce qui est un marché énorme. Alors que l'Europe et l'Amérique du Nord sont des marchés matures, entre guillemets, pour tout ce qui concerne les cartes de crédit. Ça fait une cinquantaine d'années qu'on a développé les cartes de crédit en Europe,
oui,
et en Amérique du Nord. En plus, avec la carte à puce, qui est quand même très sécurisant, que ce soit le Canada ou l'Europe, encore une fois, il y a énormément de cartes qui sont... Enfin, toutes les cartes sont à puce depuis longtemps. Donc, du coup, il y a moins un besoin de passer au téléphone portable. Alors qu'aux États-Unis, où la puce est assez récente, là c'est plus intéressant pour les téléphones portables puisqu'il n'y a pas ce moyen de sécuriser les paiements.
Alors vous parlez justement de sécurité, j'imagine que c'est un enjeu de taille pour toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles entreprises, quand on parle de financement et de monétisation d'échanges monétaires à travers des moyens digitaux. Est-ce que ça va être au centre de vos préoccupations dans cette soirée FinTech ?
C'est un des sujets abordés, effectivement, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui se font pour sécuriser les paiements. Par exemple, il y a de plus en plus de... Il y a déjà la biométrie qui est en plein développement. Je sais que Moniris au Canada s'y intéresse beaucoup, mais en Europe aussi. Après, il y a le problème de la sécurité de la personne, parce que c'est souvent basé sur l'empreinte digitale. La crainte, c'est de se faire couper le doigt.
Ah,
donc,
oui.
Il y a d'autres méthodes en biométrie qui sont en train de se développer, comme de pouvoir toucher n'importe quelle partie du corps, le bout du nez, les battements de cœur, enfin d'autres, ou les yeux, qui sont plus difficilement détachables du corps humain. Et donc, de permettre une sécurisation par la biométrie, mais sans mettre en danger la sécurité de la personne. Après, l'autre moyen de sécuriser, c'est ce qu'on appelle le Secure Key, la clé de sécurité avec des codes qui changent très régulièrement. Il y a certaines banques qui font déjà ça pour leurs banques en ligne, comme HSBC, mais il y a aussi pas mal de cartes de crédit qui peuvent l'intégrer, notamment en Afrique, où justement la distance jusqu'à la banque est plus lointaine. Donc les cartes de crédit ont plus d'importance que dans d'autres pays.
Merci pour votre témoignage, Agnès. Alors, comment est-ce que ces nouvelles technologies, ces changements vont impacter le cours de nos vies, et en particulier, je pense, aux francophones du Canada, et puis plus généralement, est-ce que vous avez des points de réponse ?
Ça va avoir des conséquences majeures. Pour revenir un petit peu sur et pour rebondir sur ce qu'a dit Agnès et la présentation d'André au départ, le monde du fintech est assez vaste en fait. On a tendance à vouloir le réduire un petit peu simplement au monde du prêt ou du paiement, mais en fait ça touche tout ce qui est finance, c'est-à-dire qu'on va trouver des fintech dans le domaine de l'assurance. On va trouver des fintech dans le domaine des investissements. Aujourd'hui, vous avez des robots investisseurs qui vont très très vite et qui sont en train de remplacer le conseil financier classique. Une véritable révolution. Certaines personnes n'aiment pas ça, mais c'est effectivement aujourd'hui, sont effectivement aujourd'hui des robots qui conseillent, qui prennent les décisions d'investissement.
J'ai l'impression d'entendre un scénario de science-fiction.
On y arrive. On va trouver des fintechs également dans le domaine des prêts immobiliers. Il y en a maintenant aussi de plus en plus. Donc ça couvre un échantillon assez vaste. C'est un parapluie assez vaste. Ça va très très vite. L'année dernière, on comptait 50 fintechs à Toronto. Il y en a maintenant plus de 400 en moins d'un an.
En effet.
Donc ça va très très vite. Ça répond à un besoin. Donc c'est en pleine expansion. Il y a un élément important dans l'appréciation des fintechs et leur perception dans le monde des finances, et que l'on dit souvent, on prononce très très souvent le mot en anglais de disruption. Et disons que les fintechs vont un petit peu secouer le paysage et se positionnent en défi ou même en menace des banques et des institutions financières. Oui. Ça peut éventuellement être vrai ailleurs, je pense en particulier aux États-Unis, qui sont beaucoup plus morcelés dans leur paysage financier, beaucoup moins au Canada. Avec 5 ou 6 grandes institutions financières au Canada, le futur des fintechs sera probablement complètement différent et je ne vois pas les institutions financières canadiennes menacées en quoi que ce soit par le monde des fintechs. Mais c'est vrai que c'est un phénomène international. J'étais à Paris la semaine dernière, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ce domaine. Il y a des clusters fintech qui sont en train de se mettre en place. Il y a des incubateurs, il y a deux gros incubateurs fintech à Paris. Ici à Toronto, il y en a également, en particulier Mars Discovery District a mis en place un cluster fintech qui est extrêmement actif et qui fonctionne très très bien avec la volonté de positionner Toronto comme un des leaders mondiaux, un des hubs mondiaux du fintech.
Comprendre les enjeux du fintech, mais aussi réseauter, peut-être développer des opportunités d'échange et de commerce. Messieurs, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut trouver les informations techniques pour cette soirée qui aura lieu, je le rappelle, le 24 octobre prochain à 18h30?
Oui, vous pouvez simplement nous rejoindre, c'est-à-dire la chambre bulgare ou belge ou anglaise. Veux-tu nous donner
Les informations sont disponibles sur le site grandtoronto.ca.
Tout à fait.
Qui est fourni donc des liens envers les sites des chambres belges, bulgares et anglaises. Et vous pouvez vous inscrire, il y a un lien direct pour s'inscrire à partir du site grandtoronto.ca sur la page des événements. Donc je conseillerais aux lecteurs de passer directement par là, c'est peut-être le plus facile. Ensuite, regardez au site des trois chambres et regardez aux événements que nous avons, car nous organisons plusieurs événements à la fois et non seulement sur un sujet particulier. Donc si ce n'est le fintech qui vous intéresse, éventuellement vous vous intéressez à l'AECG ou vous intéressez à du pur réseautage, nous avons des événements dans toutes les divers domaines. Donc visitez les chambres et voyez ce que nous faisons, car nous sommes tous très très actifs.
Madame, messieurs, si vous avez un petit mot de la fin pour les auditeurs de Choc FM.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés et on espère vous rencontrer un de ces jours.
Oui, à très bientôt.
Un grand merci à vous et nous restons sur les ondes de Choc FM 105.1.